termine un peu cette question du temps. Je reprends le point de vue de l'instant, parce qu'au fond, c'est ça le point de vue important dans la philosophie d'Aristote, c'est toute cette spéculation, toute cette réflexion sur l'instant. Passé et le futur est ordonné par l'instant présent. L'instant présent rejoint ce qu'il y a d'existence dans le temps. Puisque le passé n'est plus, le futur n'est pas. C'est l'intelligence seule qui, par l'instant, peut ordonner. Le temps et faire que le temps devienne comme le nombre, une mesure. Et alors, c'est pour ça que c'est bon, je reprends tout simplement ce que nous avions, si tu es arrivé là, c'est bien de reprendre ça. Je ne vais pas continuer trop longtemps, parce que Aristote est fatigant, n'est-ce pas ? Mais il est important pour vous, moi, de temps en temps, revenir à la source. Surtout pour cette question du lieu et du temps. Ce sont des notions difficiles, délicates, mais très importantes. Ce n'est pas des principes. De sorte que facilement on les laisse tomber en disant « Je ne regarde que les principes. » Ce n'est pas vrai, parce qu'au fond, le point de vue de ceux qui est mu, étant donné le peu d'intelligibilité du mouvement, on se rattrape par le lieu, par le temps. Mais, plan métaphysique, qu'est-ce que c'est que le lieu et le temps ? Point de vue de l'être, point de vue métaphysique. Quel est l'analogue, si vous voulez, prenez l'analogue du lieu et du temps, point de vue métaphysique. Du lieu et du temps par rapport donc à ce qui est mu. Transposé pour ce qui se meut. Transposé pour ce qui est. Ça qui est important et intéressant. Qu'est-ce que ça devient par rapport au vivant ? Le lieu. Qu'est-ce que le temps devient pour le vivant ? Qu'est-ce que le lieu devient pour l'être ? Qu'est-ce que c'est que le temps qui devient pour l'être ? C'est comme ça, du reste, au point de vue philosophique, qu'on comprend bien quelque chose qui nous est donné par expérience. Vous avez l'expérience du temps, ça c'est sûr, en regardant votre montre. Et votre montre, c'est très civilisé, ça. Pour regarder le soleil, pour avoir le temps. Et c'est beaucoup plus ce soleil qui est directement et qui nous montre immédiatement le temps. Évidemment, quand il y a des nuages, c'est plus difficile. Alors ces journées-là, ça passe très vite. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le temps disparaît. Alors, au point de vue du lieu, quel est le lieu du vivant ? Quel est le lieu du vivant ? Le rôle de l'âme. Le vivant comme tel a-t-il un lieu extrinsèque à lui ? Je pose la question, hein, parce que bon, on ne traite pas beaucoup quand on voit la philosophie du vivant. Aristote non plus ne le traite pas d'anima. Et il en fait tout le temps allusion. C'est évident, la question du lieu apparaît toujours. Il y a le corps vivant. Et le corps vivant, son acte, c'est l'âme. veut dire que c'est vraiment l'âme. Et alors, pour Aristote, c'est l'âme du monde. Si Aristote reconnaît qu'il y a encore une âme du monde, donc on retrouve le point de vue de la sphère, qui est le lieu du physique et du vivant. Mais si je suis obligé de faire, de désacraliser la sphère première, je retombe sur l'âme. C'est très curieux. Voyez, le vivant a-t-il un corps extrinsèque qui le mesure? Puisque le lieu, la péras, d'où Périontos, donc la limite de celui qui l'enveloppe. Est-ce que le vivant a quelque chose qui l'enveloppe en dehors de lui-même? Non, et c'est pour ça que le vivant a un mouvement local qui lui est propre. Du moins, le vivant animal. Pour les arbres, c'est plus difficile. Parce que le jour où les arbres bougent avec toutes leurs racines, ça devient inquiétant. Ça. Mais c'est vrai que c'est le vivant se meut. Il meut avec sa petite maison. Le lieu de la tortue. Sa petite maison. Et le lieu de l'homme. Sa petite maison qui s'est construite. C'est pas son lieu. C'est un lieu artificiel, ça. La maison. Est-ce que la maison est le lieu du vivant? Non. C'est un lieu d'attente contre les intempéries. Quel est votre véritable lieu comme vivant? C'est votre âme. Se reposer dans son âme, hein, c'est tout un problème. Et certaines méthodes de méditation, se reposer dans son âme, et la transposition. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans la méthode d'une scène? Se reposer dans son âme. On fait le vide de tout ce qui n'est pas l'âme. Et ça, c'est parce que le vivant comme Dieu son âme. Et avant que l'âme soit là, c'est le sein maternel. Le passage du moment, de la virtus instrumentalis, avec l'âme. Quand l'âme présente, il y a un changement de lieu. Je crois que tant qu'il n'y a pas l'âme, on est dans un devenir, il y a passé l'intériorité, passé l'immanence. Et le temps, alors la durée. Pour dire de Bergson, la durée. La durée de Bergson. Et pour Aristote, qu'est-ce que c'est que le temps pour le vivant? Et le vivant, comme tel, il a son intériorité. Dans son immanence, ses opérations qui demeurent en lui. Donc c'est bien la durée. Le vivant a son rythme. C'est le propre du vivant d'avoir un rythme de vie. Il n'y a pas de rythme en dehors du vivant. Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas d'intériorité, il n'y a que l'extérieur. Alors il y a le temps qui mesure le devenir. Et au niveau de l'être, y a-t-il un lieu pour l'être? C'est important de se poser la question. Y a-t-il un lieu pour l'être? C'est l'acte. Ce qui finalise. Donc il n'y a pas de lieu. Au sens strict. Au fond, le lieu, c'est le terme du devenir. C'est ça qui est intéressant, parce que ça s'éclaire, on voit mieux la pérasse, le terme du devenir. Quand il n'y a plus de devenir, le mouvement local s'arrête. Il y a un repos. On est dans son lieu. Mais le repos n'est pas le lieu, mais manifeste qu'on est dans son lieu. Donc on peut dire que le lieu, c'est le terme du devenir. Et c'est pour ça que pour le vivant, le terme du devenir est purement intérieur. C'est l'âme. L'âme est source du point de départ du devenir. Puisque le vivant se meut et le vivant se repose. Il se repose, le vivant. Dormir est au service du repos. Mais on peut être se reposer autrement que de dormir. Pas besoin de dormir, il n'y a qu'à se reposer. Est-ce que la finalité, c'est dormir ou de se reposer ? Oui, la question du lieu. On voit bien quand vous le regardez par rapport à l'être. Et le temps. Le temps mesure le mouvement, ne mesure pas l'être. L'être, il est mesuré par quoi ? C'est-à-dire l'éternité, hein ? Ça vous avez envie de dire. Eh bien non, c'est Dieu qui est éternel. C'est pas l'être. C'est l'être infini. Dieu est l'éternité et l'être. L'être, ce qui est. L'ens. En tant qu'être. Il n'a pas de mesure. Il est. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une mesure. Vous ne pouvez pas dire que c'est l'éternité. L'être est au-delà du fini et de l'infini. L'être est au-delà du temps et de l'éternité. Vous voyez, ce serait peut-être une manière d'entrer en métaphysique, ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, on est très lié au temps et à l'éternité. Bien, l'être en tant qu'être est au-delà du temps et de l'éternité. C'est pas le nirvana. Mais l'être est au-dessus. Dans l'éternité. Il est. Vous voyez, ça vous oblige de regarder tout un petit secteur métaphysique qu'on ne regarde pas beaucoup. On passe très vite. Hein. Les prédicaments, quantité, qualité, relation. Les autres. On n'en parle pas en disque physique. Oui.
C'est peut-être un peu facile, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la mesure de l'être, en prenant l'analogie du temps, c'est que ça suffit.
Quelle est la mesure de l'être ? C'est l'être.
Sa substance ? Si on dit que son lieu, c'est là.
C'est son acte. Ah, vous mettriez la substance comme son.
Non.
Oui. La substance n'est pas mesure de l'être. Oui, je vois très bien ce que vous dites. Principe cause selon la forme de ce qui est. Mais c'est une cause immanente qui n'est pas mesure. Il n'y a pas de mesure de l'être. Oui, parce que la substance est principe, mais selon la forme, mais d'une manière immanente. Pour être une cause exemplaire, c'est la cause exemplaire qui est mesure. Oui. Non, je crois qu'il faut dire que l'être comme tel n'est pas mesuré. Alors c'est très curieux. Pourquoi ? Là, on touche des problèmes qui sont très curieux. Intéressant. Parce que pourquoi le devenir implique le temps, a besoin du temps, et pourquoi l'être premier, Dieu, est éternel. Et comme ça va être intéressant à saisir ça, l'être comme tel, je crois qu'il est en dehors du temps. Donc, c'est le pos, c'est l'exister, c'est la manière d'exister. d'exister, qui est dans le temps. Et la manière d'exister, qui est éternelle. Le tiesti de l'être, ce qu'est l'être, est en au-delà du temps et de l'éternité. Alors que sa manière d'exister est dans le temps et l'éternité. Et ça a l'avantage de mieux préciser où se situe le temps, la manière d'exister, le devenir. Vous voyez, le devenir comme tel, il a aussi une manière d'exister. Je peux saisir le devenir, ce qu'il est, alors je saisis la nature. Mais le devenir physique, dans le monde physique, dans le monde des vivants, sa manière d'être, sa manière d'exister, c'est le temps. Et c'est normal, puisque cette manière d'exister implique le fluxus, puisque c'est le devenir. Donc avec un fluxus. Le passé, c'est le passé. Je ne peux pas le rattraper. C'est désolant, mais je ne peux pas le rattraper. Tu restes vertigineux de penser ça. Tout le passé de votre vie, vous pouvez pas le dire. C'est le passé. On ne peut pas le refaire. Et ça, c'est propre d'être dans le temps. Le temps fait que j'existe que dans l'instant. Tu vois, le temps manifeste que je n'existe que dans l'instant. Et ça, c'est le propre d'une réalité qui est dans le devenir. Le propre d'une réalité qui est dans le devenir, c'est de n'exister que dans l'instant. Alors là, vous comprenez la précarité du devenir, la précarité du contingent, la temporalité, c'est indique qu'on n'existe que dans l'instant présent. Seul l'instant présent existe, tout le reste n'existe pas. C'est ça qui est important à saisir au plan philosophique. Alors vous voyez, je reprends la question. Si l'instant existe, donc c'est métaphysique, il est. Donc si l'instant existe, il est. Il y a donc un certain regard métaphysique sur lui. Puisque votre métaphysique commence à partir du jugement d'existence, ceci est. Et vous pouvez dire, l'instant existe. L'instant est. Si l'instant est, il fait partie de la métaphysique. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Mais l'instant n'est pas le temps. Oui. Le temps n'est pas métaphysique. Mais l'instant est métaphysique. Et c'est par l'instant que je comprends justement le caractère existentiel réel du temps. C'est par l'instant que le temps qui n'existe pas au niveau de l'être, cependant a un lien avec l'être. Si l'instant n'existait pas, le temps n'a rien à faire au point de vue philosophique. Tandis que le temps est quelque chose que je dois étudier au point de vue philosophique parce qu'il existe en l'instant. Et que dans l'instant, il existe et il montre la fragilité d'un être en devenir. Un être en devenir, il n'existe que dans l'instant. Donc il a une fragilité tout à fait particulière. La fragilité d'un être qui passe tout le temps. Qui ne se tient pas. C'est un flash. Parce que dès qu'on a passé l'instant, il n'est plus. C'est un aspect qui montre le plus la précarité. qu'est-ce qu'il voudrait dire au plan métaphysique sur l'instant? Qu'est-ce qu'il est?
C'est difficile parce qu'il est, mais il ne subsiste pas.
Ah, il ne subsiste pas, ça, c'est l'instant subsistant, comme dit saint Thomas. L'instant subsistant, c'est imaginativement me représenter ce qu'est l'éternité. C'est très joli, ça te va le dire, dans un petit tas. Anne Prévost. Il dit, pour se représenter l'imagination, pour se représenter ce que c'est que l'éternité, c'est l'instant qui subsiste. Arrête-toi, soleil. On fait arrêter l'instant, ça y est. Mais ça, c'est imaginatif. Vous ne pouvez jamais arrêter l'instant, par définition. L'instant, il ne subsiste pas. Il est toujours relatif à la réalité qui est mue. Toujours. Quand il n'y a plus la réalité qui est mue, il n'y a plus d'instant. C'est pour ça qu'au point de vue de la vie, qu'est-ce que c'est que l'instant? Puisque il y a la durée. La durée, c'est comme le temps. Mais quel est l'instant au point de vue de la vie? Pour une réalité vivante, liée au corps, l'instant est le même. Le vivant de monde physique vit dans l'instant, puisqu'il est dans l'instant. Un vivant qui est au-delà du conditionnement physique, il y a en lui quelque chose qui est au-delà du temps. Alors, c'est quelque chose que j'ignore. Quand mon âme sera séparée, j'aurai tout de suite une expérience tout à fait nouvelle de l'instant. Est-ce qu'il y a encore existe un instant? Existe-t-il un instant pour les anges? Forcément, il existe quelque chose d'analogue à l'instant. Mais c'est plus mesuré par le soleil. C'est plus mesuré par le temps. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Dans votre âme séparée, quoi. Quand votre âme sera séparée du corps, ne sera plus liée au temps et au lieu. Mais votre âme ne sera pas dans l'éternité. Parce que entrer dans l'éternité présuppose la grâce. Mais l'âme séparée, comme âme séparée, qui n'est pas dans l'éternité, elle est dans quoi? Dans un temps nouveau. Dans un instant nouveau, dont je n'ai pas l'expérience. Il y a à devenir, donc il y a nécessairement un temps nouveau. Une durée nouvelle, si vous voulez, c'est plus juste. Et dans cette durée, il y a un instant tout à fait nouveau, qui n'est plus en référence avec le corps, puisque l'âme est séparée du corps, qui est en référence avec, je crois, ma substance. Alors là, peut-être c'est juste ce que vous disiez tout à l'heure. Pour l'âme séparée, vous voyez, pour l'âme séparée, c'est possible que la référence à la substance permet de préciser quelque chose. L'analogue à l'instant. Pour l'âme séparée, hein. Pas pour vous actuellement. C'est curieux, vous voyez. On doit se poser ces questions-là. Il faut pousser ça jusqu'au bout. Et ça oblige de préciser certains aspects qu'on ne voit jamais en philosophie. J'espère que vous voyez la piste, le point de vue des catégories, le point de vue du vivant, le point de vue de l'être. Dans les catégories, on l'a. Alors, comprenons bien ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est important. Au niveau de ce qui est mu, il y a donc en dehors de ce qui est mu. Je n'ai aucun sens du lieu en dehors de ce qui est mu. Ça vient mesurer ce qui est mu de deux manières différentes. Alors pourquoi ces deux mesures de ce qui est mu ? On est mesuré par le lieu. Parce que c'est justement la limite de celui qui enveloppe, qui permet le repos. Et pourquoi cette autre mesure qui est le temps ? Pourquoi ces deux mesures ? Comment se fait-il que le corps physique a besoin de deux mesures tout à fait différentes ? Le point de vue du lieu et le point de vue du temps. Au point de vue au point de vue du lieu, on comprend parce que il faut que le mouvement physique comme tel ait une limite dans son existence. Et le point de vue du temps, soit-il une limite ? Le point de vue du temps, c'est pour ordonner le passé et le futur. C'est très curieux de se poser la question, hein, le pourquoi de ces deux limites. Nous y reviendrons. Je veux avec vous lire tout de suite ce petit passage. C'est le dernier. Donc, paragraphe 13. 222 à 13. Et dans la traduction des belles lettres, 157 pages. L'instant, je l'ai déjà lu en partie, l'instant est la continuité du temps, comme on l'a dit. Tonun esti sunekaya chrono. Sunekaya. L'instant. Alors la sunekaya. La continuité du temps. Car il relie le temps passé au futur. Ça, c'est très très important de voir ce rôle de métaxu de l'instant, du tonun. Il fait ce lien. Donc, il fait ce. Car il relie le passé au futur. Sudekei, Dokrono, Ton, Parel, Tonta. Donc il relie les choses passées aux choses futures. Et d'une manière générale, il est la limite du temps. Peras. Non, vous voyez, le lieu et le temps, qu'est-ce qu'il y a de dans le lieu et le temps, c'est le point de vue de la limite Peras. Sans limite. Et deux limites tout à fait différentes. C'est la limite qui est la chose commune. Là, c'est très important. Et de comprendre que la réalité physique a besoin de deux limites. Je reprends. Il est la limite du temps. En effet, il est commencement d'une partie et fin d'une autre. Donc l'instant est la limite du temps, comme le lieu est la limite du corps enveloppant. L'instant. C'est pas le temps, c'est l'instant qui est limité. limite du temps. Mais cela ne se voit pas comme sur le point quand il demeure au repos. Et c'est en puissance que l'instant divise. Et comme tel, il est toujours autre. Au contraire, en tant qu'il relie, il est toujours le même. Comme pour les lignes mathématiques. Car le même point n'est pas toujours un. Puisqu'il est autre quand on divise la ligne. Mais en tant qu'on le prend dans sa fonction unifiante, il est le même de toute façon, quant à la définition et quant au sujet. Ainsi l'instant est d'un côté division en puissance du temps, de l'autre il limite et unifie les deux parties. Or, quant au sujet, la division et l'unification sont la même chose, mais non quant à l'essence. Mais quand c'est le fameux passage, vous savez, qu'on avait vu, en montrant que la traduction était mauvaise, et le même, du point de vue de son être, il est différent dans sa fonction. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire. Tel est un sens de l'instant. Car il y en a un autre. C'est quand le temps de la chose est voisin. Il viendra à l'instant, c'est-à-dire tout à l'heure. Il est venu à l'instant, parce qu'il est arrivé aujourd'hui. Les événements de Troie ne sont pas produits à l'instant, ni le déluge. Donc, Aristote qui parle du déluge. Hein. Intéressant. À côté des événements de Troie. Et certes, le temps qui les rejoint est continu, mais ce n'est pas voisin. Et cette idée d'espace qu'on avait vue dans le lieu, on retrouve la même idée de continuer d'espace dans le temps. Quand on dit c'est loin de nous, ah oui, c'est très loin. Et c'est le bientôt, si vous voulez. Au contraire, on parle du bientôt. Le bientôt de Dieu et notre bientôt. Dans le temps, on peut parler d'un bientôt. On peut dire ça va arriver bientôt. Quand on dit ah oui, ça va arriver, mais quand? Mais bientôt, je vous dis. Et au contraire, oh non, il faut beaucoup de temps. C'est très très joli. Mais ça arrive, ça te joue sur les mots là. Hein, pour apercevoir ce que c'est que le point de vue de l'instant. L'expression un jour signifie un temps limité relativement à l'instant. Pris au premier sens, par exemple, Troie fut prise un jour et le déluge aura lieu un jour. Il doit y avoir en effet limitation relativement à l'instant. Il y aura donc une quantité déterminée de temps entre l'instant actuel et le futur, un autre entre l'instant actuel et le passé. L'idée de l'imaginaire, il s'en fout là-dedans. Mais s'il n'y a aucun temps qui ne fût un jour, tout temps sera limité. Peut-il donc y avoir un épuisement du temps? C'est la question d'Aristote, c'est la question des modernes d'aujourd'hui, hein, l'épuisement du temps. Le commencement. Commencement du monde, l'épuisement du temps. Y aura-t-il un épuissement du temps? C'est du reste assez joli comme expression de parler de l'épuissement du temps. La mort du temps, l'agonie du temps, les derniers gémissements du temps. C'est l'épuissement du temps. Non, sans doute. C'est un peu poétique. Vous faites vivre le temps. Non, sans doute. Puisque le mouvement existe toujours, est-il donc autre ou est-il le même de façon répétée? référence. On dit un événement lointain, un événement tout proche. C'est en référence à quoi? À l'instant présent. Et là, je crois que c'est pour nous faire comprendre que l'ordre que vous mettez dans le temps provient de l'instant présent. L'expression récemment, ça résonne, ça s'amuse, hein. C'est petit dictionnaire là. L'expression récemment implique la partie du passé qui est proche. Quand y es-tu allé récemment? Si le temps en est voisin de l'instant actuel, au contraire, autrefois signifie un temps éloigné. L'expression tout à coup s'explique à une modification qui arrive dans un temps insensible pour sa petitesse. Or, tout changement est par nature défaisant. Et c'est dans le temps que tout est engendré et détruit. Aussi, les uns l'appellent-ils très sage lorsque, pour le Périclès, ainsi, aussi, les uns l'appellent très sage, alors que pour le pythagoricien Paron, il est très ignorant. Et alors, toutes les métaphores sur le temps donne la sagesse, celui qui a beaucoup vécu. Le temps, au contraire, est très ignorant. Alors pourquoi ces métaphores nous disent quelque chose du temps? On pourrait rassembler toutes les métaphores sur le temps pour essayer de comprendre ce que c'est. Mais c'est Aristote s'amuse. Ça n'a rien de philosophique, ça. Mais c'est pourquoi? C'est pour montrer que le conditionnement du temps joue énormément pour nous. Mais pour nous, c'est ça qui serait intéressant, c'est le point de vue de l'histoire. Quel est le lien entre le temps et l'histoire? Quand vous parlez d'une science historique, qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire. L'histoire implique le temps. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas d'histoire. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'histoire et le temps? Quand vous parlez d'un temps préhistorique, le temps préhistorique, et quand vous parlez du temps historique, c'est un événement historique, ça. Bon, un événement historique, c'est il chante, comme voulez-vous. Ce serait ce problème, Aristote. Mais l'histoire, la science historique, elle est très récente. Mais viens-tu citer qui déjà a commencé un peu le point de vue des événements historiques? Mais qu'est-ce que ça représente, l'histoire? Dans la philosophie hégélienne et dans la philosophie aristotélicienne et thomiste, c'est très intéressant. C'est le lien avec le temps. Et l'homme. Parce que l'histoire commence en référence avec l'homme. Le temps, lui aussi, est en référence avec l'homme. Mais pas de la même façon. Alors c'est ça qu'il faudrait saisir, hein, le rapport entre l'histoire et le temps. Le rapport entre l'histoire et l'homme. Le rapport entre le temps et l'homme. L'histoire regarde le passé. La futurologie regarde le futur. C'est une science qu'on essaie de lancer. passé. Et l'histoire n'existe que s'il y a des témoignages. Quand il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas d'histoire. Tandis qu'il peut y avoir un temps. Donc l'histoire relate. Relate quelque chose de l'action de l'homme grâce au témoignage. C'est le fait chéré de l'homme qui permet de montrer son passage et par là de donner une référence et de faire que le temps devient un temps historique. Alors qu'est-ce que ça représente exactement ? Le fondement réel de l'histoire, il y a la double référence, le point de vue du temps et le point de vue du témoignage. Je crois que c'est les deux aspects qui impliquent le point de vue de l'histoire. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'histoire. Mais il y a un temps. C'est pour ça que le temps préhistorique, ça dit bien la chose. Le temps préhistorique. Alors, y a-t-il un temps avant l'homme ? Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de temps si l'homme n'est pas là. Et les deux sont en référence avec l'homme. Mais de deux façons différentes. L'un est en référence avec le fait chéré de l'homme. S'il n'y a pas de fait chéré de l'homme, il n'y a pas d'histoire. Et l'autre est en référence uniquement avec l'adjéré.
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.